ce journal qui vous était présenté sur RFI par Chantal Laureau. Et pour l'heure, on retrouve Edmond Sadaka. Bonjour Edmond.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et bienvenue pour ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. À la une, la revue de la presse qu'a lu pour nous Justine Fontaine aujourd'hui. Bonjour Justine.
Bonjour Edmond, bonjour à tous.
On verra avec vous tout à l'heure qu'outre-Atlantique, on retrouve un sujet hélas récurrent dans les journaux aux États-Unis, celui du contrôle des armes à feu au lendemain de l'assassinat en direct à la télévision de deux journalistes en Virginie. Concernant Haïti, cette fois, notre rendez-vous hebdomadaire avec France Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Parmi les sujets abordés, une nouvelle attaque dont a été victime un haut responsable de la police. La culture, nous irons au Pérou avec la sortie d'un documentaire intitulé « Fille du lac », un film qui raconte la lutte des paysans péruviens contre une compagnie minière. Reportage Christelle Barbier. Et puis le journal d'Outre-mer Première avec Clément Guerre et qui nous parlera de la tempête Erika qui prend l'Arc-Antillais d'assaut depuis ce matin. Et d'abord donc cette terrible fusillade en Virginie au cours de laquelle un reporter et son caméraman ont été tués par un ancien collègue de leur station de télévision. Le meurtre s'est produit lors d'une émission en direct. Il a une nouvelle fois mis en avant le problème récurrent du contrôle des armes. Vieux débat aux États-Unis qui, en dépit du nombre incessant de fusillades, n'a jamais conduit à des lois plus strictes. Le drame d'hier a provoqué bon nombre de réactions politiques, à commencer par celle du chef de la Maison-Blanche. Correspondance Jean-Louis Pourtet.
Exprimant sa tristesse devant la mort des deux journalistes, le président Obama, lors d'une interview, a une nouvelle fois lancé un appel au Congrès pour qu'il durcisse la loi sur le contrôle des armes. Il a noté que le nombre de gens qui meurent dans des incidents liés aux armes à feu aux États-Unis était largement supérieur à celui des victimes du terrorisme. Chez les candidats à la présidence, Hillary Clinton, en campagne dans l'Iowa, a été la première à demander que des mesures soient prises pour arrêter la violence.
We have got to do something about gun violence.
Nous devons faire quelque chose à propos des armes à feu aux États-Unis. Et je m'y attaquerai car il y a beaucoup de gens qui connaissent bien ce problème, mais qui hésitent à s'engager parce que c'est dur. C'est une question très politique et très difficile en Amérique.
Le gouverneur démocrate de Virginie, Terry McAuliffe, a lui aussi déploré l'abondance d'armes à feu dans le pays, mais son État est l'un des plus laxistes en matière de contrôle. Le lobby anti-armes a pour sa part déclaré que 89 personnes étaient tuées chaque jour par une arme à feu et que 40% des armes étaient vendues sans une vérification des antécédents de l'acheteur. Jean-Louis Pourtet, Washington, RFI.
Et on retrouve donc pour la revue de la presse Justine Fontaine. Nous lisions à la une des journaux américains cette affaire du contrôle des armes à feu après l'assassinat de ces deux journalistes. Beaucoup de journaux reviennent sur le sujet en déplorant le manque de régulation dans ce domaine.
Et le Washington Post se décourage. L'Amérique fera-t-elle enfin quelque chose pour mettre fin à ce carnage ? Le journal dénonce les pressions de la puissante National Rifle Association, une organisation de défense des armes à feu. Pour le Washington Post, de nouvelles mesures n'auraient peut-être pas empêché la tragédie de mercredi, mais elles pourraient en empêcher d'autres.
Au contraire, la très conservatrice National Review dénonce l'opportunisme politique, d'après elle, de ceux qui appellent systématiquement au contrôle des armes.
Absolument, pour elle, il n'est pas raisonnable de supposer que si un homme est capable de filmer et de mettre en ligne le double assassinat qu'il vient de commettre, il ne sera pas capable de se procurer une arme pour réaliser son méfait. L'éditorialiste du New York Times prédit « Beaucoup d'hommes politiques vont présenter cette fusillade comme un appel à améliorer les soins psychiatriques, sûrement pas le contrôle des armes. » Et il ne croit pas si bien dire car son confrère de la National Review avance précisément cet argument. Je le cite « S'il faut s'engager dans un effort sérieux et concerté pour empêcher ceux qui entendent des voix de menacer la sécurité publique, commencer par réformer les soins psychiatriques est une option plus judicieuse. »
On part au Venezuela maintenant où la presse revient sur la réunion entre la ministre des Affaires étrangères et son homologue colombienne. Elles se sont rencontrées hier, mercredi, pour tenter de trouver une solution à ce nouveau conflit frontalier qui agite les deux pays.
Oui, on en parlait hier dans cette revue de presse. Le Venezuela a décidé de fermer une partie de sa frontière avec la Colombie en fin de semaine dernière. Alors à Caracas, à sa une, le journal El Nacional tire ce bilan de la rencontre ministérielle. Venezuela et Colombie ne parviennent pas à un accord. Le quotidien Ultimas Noticias, au contraire, affiche une photo des deux ministres souriantes sous ce titre « Un chemin vers une nouvelle frontière ».
L'événement fait également réagir la presse à l'étranger. Le Nuevo Herald, la version espagnole du Miami Herald, dénonce la fermeture abrupte, selon lui, de la frontière par le président du Venezuela.
Le journal rappelle que le leader chaviste affirme que la contrebande à la frontière fait partie d'un plan, de la droite pour déstabiliser son régime. Mais le quotidien signale qu'il n'a fourni aucune preuve concrète à ce sujet. À Caracas, le journal Ultimas Noticias, que je citais tout à l'heure, publie dans ses pages intérieures une tribune très critique. Elle est signée du sociologue Claudio Fermin, aussi membre de l'opposition. Il dénonce « Cette frontière est devenue le déversoir de la guérilla colombienne grâce à la main généreuse de ses camarades vénézuéliens au gouvernement ». Il insiste, la contrebande n'est possible qu'avec le soutien des militaires vénézuéliens.
En Argentine, enfin, la présidente Cristina Kirchner est malmenée par des accusations de fraude électorale de son parti lors de l'élection du gouverneur de la province de Tucumán.
Le quotidien La Prensa appelle la présidente à faire preuve d'autorité dans son parti pour mettre fin, je le cite, à 10 ans d'abus de pouvoir. Mais La Nation décide de faire un pas de côté. Pour l'éditorialiste du journal, c'est vrai, la fraude peut décourager ceux qui s'impatientent face aux difficultés dans la construction de la démocratie. Néanmoins, pour lui, l'ampleur des manifestations contre cette fraude électorale ne peut qu'inciter à l'optimisme. Il en est convaincu, nous les Argentins sommes en train de vivre un processus, certes accidenté mais pourtant bien réel, de maturation de la démocratie.
La revue de la presse des Amériques, c'était Justine Fontaine, merci. On prend tout de suite la direction de Port-au-Prince pour retrouver Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, et on fait le point sur les sujets à la une du journal en ce milieu de semaine. Bonjour Franz Duval.
Bonjour.
Alors, premier grand thème à la une du Nouvelliste, cette nouvelle attaque dont a été victime un haut responsable de la police haïtienne.
Jean-Nesli Lucien, ancien directeur général de la police haïtienne, a été attaqué hier après-midi par des tireurs à moto. Il a reçu 2 balles. Il reçoit des soins actuellement à l'hôpital. Il est le 2e chef de la police à avoir été attaqué. Jocelyne Pierre, ancienne directrice générale de la police nationale d'Haïti, avait été attaquée chez elle et avait succombé à ses blessures. Auriel Jean, ancien responsable de la sécurité présidentielle, a lui été tué en pleine rue par des hommes armés. Les 3 avaient été en poste sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide. La police haïtienne a dans les 3 cas promis des enquêtes qui n'ont toujours pas abouti à des arrestations.
Donc pas d'idée précise sur les motivations des agresseurs, en tout cas pour l'instant.
Non, il n'y a pas de revendication et la police n'a pas fait d'arrestation dans ces 3 cas qui se sont étalés sur les 24 derniers mois.
On va parler d'autre chose, de culture cette fois, puisque le festival Carifesta, cette rencontre culturelle entre 22 pays de la région Caraïbe, continue et ça va se poursuivre encore pendant 3 jours jusqu'au 30 août.
Depuis le 21 août, c'est la fête tous les jours à Port-au-Prince et dans 5 autres villes de la République d'Haïti. Des artistes, des officiels de toute la Caraïbe sont là pour ce grand festival Carifesta qui se tient en Haïti cette année pour sa 12e édition. Le président Martelly ne rate pas une occasion pour se montrer en haute parfait, mais surtout pour montrer qu'il est toujours le musicien et l'animateur qui n'a pas oublié ses talents. Tous les soirs, le président est sur scène pour le plus grand plaisir des spectateurs et la désolation de ceux qui estiment qu'il est en train de trivialiser la fonction présidentielle.
Alors Michel Martelly qui chante, qui danse tous les jours à Carifesta, et pendant ce temps, eh bien, les élections législatives du 9 août continuent de provoquer bien des remous.
Tout à fait. Mercredi, des candidats mécontents ont interrompu une séance du tribunal électoral qui devait se prononcer sur les contestations dans le département de l'Ouest. Leurs revendications sont diverses. Certains estiment que les élections ont été entachées d'irrégularités graves, d'autres que les résultats n'ont pas encore été publiés et que les contestations sont sans valeur pour le moment. Il faut dire que de plus en plus de statisticiens mettent en doute les méthodes de calcul du Conseil électoral pour définir le nombre de participants à l'élection. Le taux de participation était très faible, 18%, mais on met en question le nombre de votants qui permet de déterminer les gagnants. Pendant ce temps, le CEP s'enfonce dans un mutisme persistant. Le CEP ne dit rien. À 2 mois de l'élection présidentielle, le Conseil rencontre ce vendredi les partis politiques. La réunion s'annonce houleuse.
Alors, Franz Duval, dernier sujet dont vous nous parlez aujourd'hui, ce sont ces problèmes au niveau de la frontière entre Haïti et la République dominicaine.
28 jours après une grève des transporteurs entre Haïti et la République dominicaine, cette grève a bloqué le transport de marchandises entre les deux pays, mais particulièrement du côté dominicain vers Haïti. Le gouvernement a sorti un communiqué pour annoncer que la police nationale d'Haïti va donner tout son support, toute la sécurité possible aux transporteurs dominicains pour qu'ils ne se fassent pas agresser, parce que la grève a commencé suite à une agression. Cela arrive après le cri des industriels haïtiens qui disaient que 20 000 emplois étaient en danger parce que les usines de sous-traitance qui fonctionnent en Haïti ne pouvaient pas recevoir les intrants qui viennent de la République dominicaine.
Merci beaucoup, Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Et à jeudi prochain, bonne journée.
Bonne journée.
Et on va se rendre maintenant au Pérou, où sort aujourd'hui dans plusieurs salles de cinéma un film documentaire qui a déjà fait parler de lui. Sa bande-annonce est la plus reproduite de l'histoire du Pérou. 5 millions de personnes ont déjà pu la voir sur le réseau social Facebook. Le documentaire intitulé « Fille du lac » et dont la diffusion pour le moment reste relativement confidentielle raconte la lutte des paysans péruviens contre une compagnie minière. Notre correspondante Christelle Barbier l'a vu pour nous et elle a rencontré son réalisateur Ernesto Cabello. Ce reportage...
L'eau est le son de la terre, et sans son son, la terre ne pourrait pas vivre. Quand ils détruiront le lac, où iront vivre les propriétaires des lacs? Pas les gens, mais les esprits. Car ils sont là, eux, pour prendre soin de toi, Mamao, Mama Yakuo. Et ils n'ont rien demandé.
Ainsi commence le documentaire « Fille du lac » sur les hauteurs de Cajamarca, au nord du Pérou, à plus de 4000 mètres d'altitude, au bord d'un des lacs dont l'existence est menacée par un grand projet minier. Le directeur et réalisateur du film, Ernesto Cabello, nous en dit davantage.
Fille du lac est un documentaire sur l'amour pour l'eau que ressent une paysanne de Cajamarca. Elle parle au lac, qu'elle appelle sa mère eau, et quand elle sent que sa mère est menacée par l'expansion d'un projet minier, elle quitte la campagne pour aller étudier le droit en ville, pour rétablir la justice, se défendre et rejoindre un mouvement pour sauver les lacs. Une mobilisation pour sauver les lagunes.
Peu de paroles dans ce film, pas de commentaires ou voix off, mais de longs moments de silence, plongeant le spectateur dans l'univers des Andes et de ses habitants. Le fil rouge du documentaire, Nelida, est une jeune femme d'origine paysanne que l'on suit dans sa lutte contre la mine, un personnage qui a su captiver l'attention de Nuria Frigola, la productrice du film.
Nelida, de son point de vue andin, apporte vraiment beaucoup au droit, un apport d'avant-garde, parce qu'elle ne parle pas seulement du droit humain à l'eau, en fait elle n'en parle même pas du tout, elle parle du droit de l'eau en la considérant comme un être vivant. Et il est très probable que dans une cinquantaine d'années, cette vision fera partie des nouvelles tendances du droit.
Cependant, contrairement à ce que laisse croire la bande-annonce, le documentaire ne traite pas que du conflit minier de Cajamarca, mais aborde aussi, bien que rapidement, la problématique de la mine illégale en Amazonie péruvienne, du manque d'eau dû à la mine dans un village de Bolivie ou encore de l'importance de cette activité pour certains Boliviens d'Oruro. Le but, provoquer la réflexion autour de la question minière, un des débats d'actualité en Amérique latine, mais pas seulement. Nuria Frigola.
Tout le thème de l'extractivisme et des différentes formes d'activités minières sont des problèmes au Pérou et dans les Andes de manière générale, la Bolivie étant un pays minier depuis l'époque précolombienne. Mais en fait, le modus operandi des entreprises minières est un problème universel. On a reçu des communications de gens du Mexique, d'Argentine, du Chili, du Canada, qui nous disent « il se passe exactement la même chose dans notre pays ».
Et quoi de plus adapté pour aborder les problématiques d'une société que le film documentaire, un outil indispensable aux yeux du cinéaste péruvien Ernesto Cabello.
Il y a un réalisateur chilien qui le dit très bien. Un pays sans film documentaire, c'est comme une famille sans album de photos. Et ce que nous faisons, ce sont les photos de l'album de famille des Péruviens et des Latino-Américains. Parfois, ce sont des photos qui montrent des moments d'union, comme on l'a fait avec le film, des casseroles et des rêves, qui fait un portrait du Pérou autour de sa cuisine. Et parfois, ce sont des moments de désaccord, comme les conflits sociaux-environnementaux.
Malheureusement, regrette le cinéaste, il existe aujourd'hui peu d'espace de diffusion pour les films documentaires qui se battent pour sortir en salle commerciale. Au Pérou, Fille du Lac a réussi à intégrer la programmation de plusieurs cinémas de Lima, mais aussi de Cajamarca, une victoire en soi. Christelle Barbier, Lima, RFI.
Le journal d'Outre-mer Première, la tempête Erika qui prend l'Arc-Antillais d'assaut depuis ce matin. Bonjour Clément Guerre.
Bonjour. Des amas nuageux traversent en ce moment les Antilles, les vents sont violents et le niveau de vigilance est classé orange en Martinique et en Guadeloupe jusqu'à la fin de la journée. Mais ce sont les îles du Nord qui sont davantage menacées par Erika. Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont en vigilance rouge, un phénomène qui devrait se prolonger jusqu'à la fin de ce jeudi. Olivier Lancien se trouve à Saint-Martin où l'orage se fait d'heure en heure un peu plus entendre. Écoutez.
Alors, l'orage, depuis quelques minutes, ça s'est un peu calmé. Le ciel s'est un peu dégagé. Mais c'est peut-être l'accalmie en attendant l'orage, justement. Depuis ce matin, enfin ce matin très tôt, après un gros orage, les pluies se sont intensifiées et les averses se sont fait entendre ici à Saint-Martin. Saint-Martin qui se réveille doucement, pas beaucoup de véhicules qui circulent à Marigot, mais nous ne sommes qu'au petit matin. Il faudra attendre le reste de la journée. La préfète déléguée Anne Lobiès a demandé aux administrations de baisser rideau aujourd'hui et elle demande aux entreprises qui le souhaitent de faire de même. En partie hollandaise, le gouverneur de Sint-Maarten a décrété la fermeture des entreprises, des administrations pour toute la journée. Saint-Martin s'apprête à vivre la tempête Erika.
J'ajoute que tous les vols en provenance des Antilles à destination de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont annulés. Les améliorations devraient avoir lieu demain, vendredi, dans la matinée. Un mot de sport et du basket avec l'équipe professionnelle de Bourges qui est en Martinique pour un stage de préparation avant la nouvelle saison. Parmi elles, 5 joueuses de l'équipe de France, des joueuses de Bourges qui ont assuré un entraînement pour les filles du pôle Martinique de l'Institut du Sport. La martiniquaise et basketteuse de l'équipe de France, Sandrine Gruda, estime que cet échange ne peut être que positif. Et puis un match d'exhibition est prévu samedi entre Bourges et une équipe américaine. En Guyane maintenant, un accident entre 2 pirogues sur le fleuve Maroni à Saint-Laurent. Les 2 bateaux circulaient à une vitesse importante. Du coup, le débat sur la circulation de nuit des pirogues est relancé. Il existe bien une interdiction, mais elle est loin d'être respectée. Écoutez le reportage de Nicolas Pietrus de Guyane Première.
Tous les jours, ce sont en moyenne 1000 rotations de pirogues entre la rive saint-laurentaise et Albina en Suriname. Traverser le Maroni, c'est le seul moyen de se rendre d'un côté comme de l'autre du fleuve, mais seulement entre 5h du matin et 20h le soir. Le capitaine Hervé Ogias nous rappelle l'arrêté préfectoral.
L'arrêté préfectoral stipule que l'accostage et le départ de la rive française sur le fleuve Maroni sont interdits de 20h à 5h du matin.
Ce qui signifie donc que la navigation est interdite passé 20h et en plus, des piroguiers prennent le risque de traverser sans le moindre éclairage, nous confirme Serge Transporteur.
Nous, comme pirogues, nous, on connaît notre travail qu'on fait. Mais ceux qui travaillent la nuit, il y a ceux qui sont occupés pour travailler la nuit, il y a ceux qui ne sont pas occupés.
C'est dangereux, nous dit également Serge, car la visibilité sur le Maroni est totalement inexistante. Pour le capitaine Hervé Ogias, le danger est réel.
C'est extrêmement dangereux, d'autant plus que bon nombre de pirogues ne sont pas équipées de moyens lumineux, notamment qui les signalent au milieu du fleuve. Hein. Les collisions vont arriver très fréquemment.
Et c'était le cas le week-end dernier, un accident qui a coûté la vie à ce chanteur surinamais. Mais selon des piroguiers eux-mêmes, ce sont entre 200 et 300 rotations que l'on dénombre chaque jour entre 20h et 5h du matin.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée.
Merci. À demain, Clément Guerre. Merci à vous tous d'être restés avec nous et à Boris Wichit qui était à la réalisation et à la technique ainsi que Mathieu Salabert. Excellente journée à toutes et à tous.
Bonjour, c'est Maman. Tu es humoriste et tu penses que tu es plus drôle que notre leader bien-aimé, son Excellence Président Fondateur? Alors participe au prix RFI Talent du Rire dans le cadre du Festival du Gondwana en décembre à Abidjan. Viens t'inscrire sur le site internet festivaldugondwana.com. Ce que tu vas gagner?
Petit, moi-même, je n'ai pas ça sur mon compte en banque.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Dernier épisode de notre série sur les villes du Moyen-Orient, Beyrouth. Une cité où chaque quartier porte les marques à la fois de la guerre civile passée et du communautarisme institutionnel. La capitale libanaise en pleine résurrection malgré les échos de la guerre qui déborde de la Syrie voisine.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Samedi, à partir de 21h10 TU.
RFI.